Couleur FM, Espace Public, Thierry Borde, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette édition d'Espace Public, une nouvelle fois dédiée à la rencontre de nos politiques de notre territoire. Cette fois, nous avons la chance d'accueillir Madame Joëlle Huillier. Bonjour Madame Joëlle Huillier.
Bonjour.
Voilà, vous êtes députée de la 10e circonscription de l'Isère.
C'est exact.
C'est-à-dire celle qui concerne un territoire qui coupe Bourgoin-Jallieu en deux, entre Bourgoin et Jallieu, c'est bien
hélas,
ça. De l'autre côté, c'est la 6e.
Oui, oui. C'est pas très commode d'ailleurs, parce que les habitants de Bourgoin ne savent pas toujours dans quelle circonscription ils résident. Et le découpage est assez particulier. C'est vrai qu'on dit que l'ancien Bourgoin, c'est la 10e circonscription, celle sur laquelle je suis. Et en revanche, Jallieu est sur la 6e circonscription. Mais en même temps, autour de Bourgoin, il y a des découpages qui sont un petit peu particuliers. Donc c'est des fois un petit peu difficile à se reconnaître.
Voilà, donc en tout cas là, c'est la partie Bourgoin.
Oui.
C'est bien ça. Et alors, on a eu envie de vous inviter aujourd'hui, alors non seulement parce que l'actualité politique est riche, évidemment, et qu'on essaye de s'y intéresser un peu, mais aussi et surtout parce que une nouvelle mission vous a été confiée par le Premier ministre, qui concerne ce qu'on appelle d'un terme québécois et qui a le génie québécois des termes français, le baluchonnage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est le baluchonnage ?
Déjà, le mot est tout à fait sympathique, je trouve, parce que le baluchonnage, ça veut dire qu'on transporte son baluchon. En fin de compte, moi j'étais rapporteur de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Et dans le cadre de cette loi, en première lecture, on avait voulu mettre en place ce fameux baluchonnage. L'Assemblée nationale l'avait voté, le Sénat l'a rejeté parce que on avait un problème avec le droit du travail. Alors ça consiste en quoi le baluchonnage ? Ça consiste simplement, lorsqu'une personne âgée ou handicapée, mais une personne qui est en fragilité, en grande fragilité, veut rester chez elle et qu'elle est habituellement aidée par sa famille, c'est de permettre à sa famille de partir un peu en vacances, en week-end ou plusieurs jours de vacances. D'emmener la personne âgée dans un hébergement temporaire ou dans une maison de retraite à titre temporaire, c'est souvent un vrai traumatisme pour cette personne âgée. Donc là, on n'emmène pas la personne âgée à l'extérieur de chez elle, on fait venir un professionnel à son domicile. Le professionnel, il est là pour remplacer la famille. Il n'est pas là pour remplacer d'autres professionnels qui viendraient faire du ménage, qui viendraient faire de l'aide à la toilette, etc. Non, ce professionnel-là, le baluchonneur, est fait pour remplacer la famille, ce qui fait qu'il est là 24 heures sur 24 pendant 2, 3, 4 jours, 6 jours d'affilée. Mais ça coince un petit peu avec le droit du travail, puisque le droit du travail ne permet pas de travailler plus de 12 heures d'affilée, sauf dans des conditions particulières que je pourrais évoquer si vous le voulez.
Alors que justement, vous auriez envie d'éviter la multiplication des personnes pendant ces périodes-là, c'est ça ?
C'est ça, parce que d'avoir une multiplication d'intervenants auprès d'une personne âgée en fragilité, hein, je dis bien ce sont des personnes âgées en fragilité ou des handicapés, hein, c'est un peu traumatisant pour les personnes d'avoir des nouvelles têtes qui se succèdent toutes les 12 heures. Donc on essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent pour le bien-être de la personne.
Est-ce que vous avez d'ores et déjà, avant, parce que là on vient de vous confier il y a 15 jours cette mission, oui, est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée de comment résoudre cette équation au niveau du droit du travail ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs pistes que je voudrais creuser, tout simplement parce qu'il y a des expérimentations qui se font dans toute la France. Il y a une expérimentation que je connais mieux que d'autres parce qu'elle se situe sur notre territoire. C'est Bulle d'air qui a été montée par la MSA Alpes du Nord, que je salue pour cette occasion. Et c'est une expérimentation qui permet à des personnes d'avoir le rôle de baluchonneur avec un angle un peu particulier, c'est-à-dire que c'est la personne âgée qui est l'employeur, c'est ce qu'on appelle un service mandataire, en quelque sorte, c'est quand même tout organisé par l'association Bulle d'air, et qui permet de rester 48 heures maximum auprès d'une personne âgée, mais avec une seule personne, avec un seul aidant, avec un seul baluchonneur. Tout simplement parce que là, le droit du travail le permet, parce qu'on est dans une convention collective particulière qui est celle des employeurs particuliers, comme une convention collective de gens de maison. Là, on arrive à aller jusqu'à 48 heures. Donc ça, c'est une hypothèse. On a une deuxième hypothèse, c'est de passer par un service prestataire, mais là, ça coûte horriblement cher, et je pense pas qu'il faille aller sur ce procédé-là. Et puis, j'ai pensé à autre chose, mais là, il va falloir que je travaille avec le droit du travail, le droit des impôts, etc., avec le code des impôts. C'est l'auto-entreprise. Je ne vois pas pourquoi on évacuerait d'emblée l'auto-entreprise pour pouvoir garder des personnes à leur domicile. Par contre, il faudra faire attention à avoir un certain nombre de garanties, une garantie notamment sur le professionnalisme de ces baluchonneurs. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut que je travaille absolument.
Voilà, mais l'auto-entreprise est quand même soumise au droit du travail, non ? Ça permet de s'en décaler ?
Et non, vous êtes comme en libéral, vous êtes comme un patron d'entreprise. Le maçon qui a son compte, s'il veut travailler 15 heures par jour, il peut le faire.
Très bien. Et il est question d'une... Enfin, ça va coûter de l'argent, et donc cet argent va être donné dans un dispositif global ou ça va être versé aux familles ?
Alors, il y a déjà, dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, il y a déjà des ressources qui ont été dégagées, notamment dans ce qu'on appelle le droit au répit. Le droit au répit permet de donner jusqu'à 500 euros par an, c'est pas énorme, mais avant il n'y avait rien, donc c'est mieux que rien. 500 euros pour une famille, pour lui permettre de payer, enfin de financer une aide, soit à domicile, soit un hébergement temporaire, soit des accueils de jour, etc., pour permettre à la famille de souffler. Et j'aime bien ce terme d'aide au répit. Au-delà de ces 500 euros qu'on appelle l'aide au répit, il y a des possibilités aussi pour notamment les retraités, dans le cadre de l'action sociale des régimes de retraite. C'est d'ailleurs ce que fait la MSA pour ses propres ressortissants, c'est-à-dire qu'il les aide en plus des 500 euros, il les aide avec un financement particulier qui permet d'avoir un petit peu plus d'heures pour faire de l'aide au répit.
Alors, et l'aide au répit, du coup, le baluchonnage, ça va être quelque chose en plus de l'aide au répit ?
Non, ça peut être à la place, ça peut être concomitant, il peut y avoir plusieurs choses envisageables. Le baluchonnage, c'est une aide au répit particulière, puisque là, c'est le professionnel qui vient au domicile de la personne âgée. Jusqu'à présent, l'aide au répit avait plutôt été prise en compte pour financer notamment de l'hébergement temporaire. Donc c'est la personne âgée qui part dans un établissement pendant 8 jours pour permettre à la famille de partir en vacances.
D'accord, donc l'aide au répit, c'était en quelque sorte permettre d'étudier...
On va dire que c'est un générique. Voilà. L'aide au répit, on peut après trouver plusieurs formules d'aide au répit.
Donc en tout état de cause, pour les auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui, si on est dans cette situation, si on est à la maison obligé de garder un proche, on a le droit de demander cette aide de 500 euros déjà,
oui,
en attendant effectivement qu'un dispositif plus complet voit le jour. Oui.
Mais cette aide n'est valable que pour les personnes qui bénéficient de l'APA, c'est-à-dire de l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc ce sont pour des personnes qui sont classées dans des groupes iso-ressources. Il y a 6 groupes iso-ressources qui existent, mais il faut être classé dans des groupes iso-ressources de 1 à 4, c'est-à-dire avoir soit une fragilité déjà installée, soit une dépendance, hélas, carrément présente.
Il faut aussi expliquer que ces aides, ces réflexions que vous menez, et en particulier, enfin, vous êtes très 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 partie prenante, on l'a dit, vous étiez rapporteur de la loi l'année dernière, donc cette loi d'adaptation au vieillissement qui a été prise en 2015, fin 2015.
En décembre.
Et puis vous êtes missionné sur cette mission baluchonnage. Il faut donc peut-être expliquer que tout ça vient d'une volonté d'adapter, comme la loi le dit, notre société à un phénomène particulier qui est celui du vieillissement. Est-ce que ce phénomène est si marquant ?
Oui, c'est un phénomène qui est marquant dans tous les pays européens. Tous les pays européens voient l'espérance de vie s'allonger et donc bientôt on aura plus de personnes âgées que de jeunes. Alors la France est encore dans une situation démographique intéressante, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens où les naissances marquent un retrait assez sensible. C'est pas le cas de la France, je le répète. Néanmoins, jusqu'à présent, les acteurs politiques avaient eu une politique exclusivement versée vers les personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, avec cette loi qui a été votée en décembre 2015, qui a été publiée en décembre 2015, on n'est plus du tout dans la même situation, c'est-à-dire qu'on se dit il faut bien évidemment aider les personnes âgées dépendantes, mais il faut aider aussi les autres personnes âgées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être personne âgée? Généralement, on lit ça avec l'âge de départ à la retraite. Mais on a donc 2 à 3 générations aujourd'hui de personnes de plus de 60 ans. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, c'était extrêmement important de pouvoir avoir des politiques qui disent qu'une personne âgée de plus de 60 ans, elle n'est pas forcément dépendante, elle a encore des activités, elle a encore une utilité à produire au bénéfice de tous les citoyens. Donc, ce qu'on a voulu, c'était un changement de regard de cette société par rapport aux personnes de plus de 60 ans. Et ce changement de regard, ça passait bien évidemment par un certain nombre de mesures. On sait qu'aujourd'hui, une personne de plus de 60 ans, elle a 3 fois sur 4 une personne, un parent, qui est plus âgé qu'elle, donc, et qui est en état de fragilité ou de dépendance. Comment faire pour aider ces aidants familiaux à prendre en compte la dépendance de leurs aînés sans pour autant qu'ils soient eux-mêmes sacrifiés dans leur vie habituelle? Donc, cette loi a voulu ce changement de regard de façon à ce qu'on puisse vivre tous ensemble en bonne intelligence, en bonne entente, et que tout le monde s'entende bien, que toutes les générations, de la plus jeune génération jusqu'à la plus ancienne, puissent vivre de façon cohérente dans cette société.
Alors, c'était peut-être quelque chose qui se faisait naturellement dans le temps. Vous savez, on a toujours cette nostalgie de dans le temps, dans les campagnes, dans les fermes. Ben voilà, chacun prenait soin de la génération d'avant et d'avant. Mais comme vous le dites, c'est peut-être la première fois qu'il y a autant de générations à plus de 60 ans. Est-ce que ces mesures, c'est aussi une société qui s'adapte non seulement au vieillissement, mais aussi à un changement complet au niveau des familles, au niveau de ces interrelations, de la prise en charge des uns des autres?
Ah, mais c'est sûr qu'il y a un changement énorme. Avant, on parlait beaucoup d'aidants familiaux. Les aidants familiaux, on considérait toujours que c'était bien souvent la fille ou la belle-fille par rapport aux parents qui étaient ou aux beaux-parents qui étaient plus âgés. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas puisqu'on a un peu plus de, on va dire, d'égalité dans les tâches domestiques, en quelque sorte. Donc, on a aussi beaucoup d'hommes qui sont aidants familiaux. Maintenant, il n'y a pas que des femmes. Et puis, on a une société qui a évolué parce que on a eu une mobilité géographique, professionnelle, qui a été beaucoup plus importante qu'il y a 30, 40 et 50 ans en arrière. Et puis, aussi un phénomène qui a été une vraie révolution, c'est que les retraités d'aujourd'hui ont fait 68. Et ça, il ne faut pas l'oublier, 1968. Ça aussi, ça a été une vraie révolution avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, je l'admets, mais aussi avec ses bons côtés. Et dans les bons côtés que j'y vois, c'était de dire « on existe ». On existe de par nous-mêmes, on existe parce qu'on est des individus et qu'on a quelque chose à dire. Et ceux qui avaient quelque chose à dire quand ils avaient 20 ans, 68, ils ont toujours quelque chose à dire aujourd'hui qu'ils ont 60, 70 ans, etc. Et pendant des années, on a considéré qu'on avait des représentants de personnes âgées qui, eux, savaient tout. C'est-à-dire qu'on ne demandait jamais aux personnes âgées ce qu'elles pensaient elles-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, même si on ne leur demande pas, les personnes âgées, elles disent ce qu'elles veulent. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce changement de société, qu'il fallait absolument qu'on prenne une loi qui prenne en compte ça. Je reviens sur les aidants familiaux. Dans la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, il y a quelque chose de très intéressant, où on dit que l'aidant familial n'est pas forcément de la famille, que l'aidant peut être un ami ou une amie. Ça, c'est très nouveau parce que ça permet d'avoir de nouveaux droits pour ces personnes qui s'occupent de leurs voisins, de leurs amis, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important. Dans le cadre des personnes qui sont salariées, il existe un droit à congé pour les aidants. Eh bien, nous avons élargi ce droit à congé à des amis qui s'occupent de façon fréquente, quotidienne éventuellement, qui s'occupent d'une personne qui est en dépendance. Et c'est très important.
Et c'est important, c'est le cas de très nombreuses personnes, je crois. Vous parliez des personnes âgées qui maintenant ont fait 68. Ça m'a fait penser à peut-être quelque chose qui a pu vous inspirer ou que vous avez croisé. Est-ce que vous avez croisé les Baba Yaga à Paris. Vous connaissez cette expérience ?
Alors non, pas assez. Il faut que j'aille les voir, je ne les connais pas assez, non.
Thérèse, leur figure emblématique, a décédé il y a quelques mois, je crois. Voilà, mais c'était une expérience de personnes âgées qui voulaient se rendre plus autonomes, qui développaient leur autonomie et finalement être dans une sorte de situation de vieillissement en autogestion. Donc tout à fait 68 heures après l'heure.
Allez, on marque une première pause musicale et on se retrouve juste après.
Strings, who makes the deals? Stands 5'3" in Cuban heels. Who gets all the girls, then wakes up again?
Vous êtes bien sur Couleur FM dans le magazine Espace Public avec Joël Huillier.
Merci pour toutes ces explications concernant ce domaine du baluchonnage, de l'accompagnement de la société et de l'adaptation de la société au vieillissement. Alors, c'est l'occasion peut-être d'élargir un petit peu notre propos. Si vous vous occupez particulièrement de cela, c'est parce que vous êtes fortement engagé à l'Assemblée nationale dans tout ce qui concerne les affaires sociales. Et j'aimerais qu'on en profite pour parler un petit peu de votre vie de député. Ce que vous faites à l'Assemblée nationale, c'est souvent assez obscur pour le citoyen. Finalement, on voit des députés qui ont l'air de travailler énormément, mais on ne sait pas toujours, à moins qu'on passe quelques heures à la télé pour regarder les questions, on ne sait pas toujours dans quoi vous vous engagez, ce que vous faites. Et je sais notamment qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes occupé du cas des pharmaciens aussi. Bref, vous avez un champ d'action relativement large.
Oui, alors un champ d'action relativement large, surtout dans le cadre de toutes les affaires sociales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un député, quand il arrive à l'Assemblée nationale, on lui demande de choisir dans quelle commission il veut aller. Il existe 8 commissions à l'Assemblée nationale, dont la commission des affaires sociales. Je me suis, de par ma profession antérieure, puisque je travaillais à la sécurité sociale, tout naturellement proposé pour aller à la commission des affaires sociales. Donc, cette commission des affaires sociales, je peux dire qu'en tout cas en 2015, c'est la commission qui a le plus travaillé. Tout est à la limite sociale. À chaque fois qu'on touche quelque chose, on touche un code, quel qu'il soit, il y a toujours du social dedans. Donc, on voit à peu près toutes les lois qui peuvent passer, il y a toujours une partie sociale dedans. Et je crois que c'est important d'ailleurs de pouvoir justement avoir cet aspect un peu humain, un peu social dans toutes les lois qu'on peut prendre. Ceci étant, lorsqu'on est dans une commission, puis on a déjà l'obligation d'être dans une commission. Qu'est-ce que fait cette commission ? Cette commission travaille sur toutes les lois qui la concernent. C'est là où tout se passe. C'est dans l'hémicycle, ce qu'on peut voir à la télévision, etc. J'allais presque dire, c'est un peu plus pour la galerie. Parce que c'est pas parce qu'on nous voit plus souvent à la télé qu'on travaille le plus. Hein. Moi, je connais des députés qui travaillent un peu plus dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément à la télévision et qui, pour autant, travaillent énormément.
Il y a même peut-être parfois une règle contraire.
Quelquefois. Mais donc dans les commissions, on travaille les textes vraiment à fond, mais on travaille que ses propres textes, c'est-à-dire que les textes qui intéressent la commission. C'est-à-dire que la commission de la défense ou la commission des affaires étrangères ne va pas travailler sur le droit du travail, par exemple. La loi El Khomri sur le travail, la commission de la défense, la commission de l'environnement, la commission de la culture n'a pas travaillé sur cette loi. C'était la commission des affaires sociales, bien évidemment, qui travaillait dessus. Donc, dans ces commissions, on travaille sur ses propres lois, mais de façon très à fond. Et après, ces lois sont présentées dans l'hémicycle où là, tous les députés peuvent avoir leur mot à dire. C'est ça la différence entre les spécialistes d'une commission et les gens qui sont un peu plus généralistes. Ça, c'est le premier travail du député, c'est l'élaboration de la loi. Le deuxième travail du député, c'est le contrôle du gouvernement. Ça, c'est une mission qui est pas forcément bien connue, ce contrôle du gouvernement. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de convoquer les ministres pour qu'ils nous expliquent de quelle façon ils rendent applicable une loi qu'on a votée. Ça, c'est extrêmement intéressant comme mission. Et puis, dans ce cadre-là, nous avons des groupes d'études, des groupes de travail et des missions pour regarder comment a été appliquée une loi. Et puis, la troisième fonction du député, c'est de représenter son territoire. Et pour représenter un territoire, il faut y être sur le territoire. Moi, je connais des députés qui sont très souvent à Paris. Et je ne parle pas là de parti politique, hein, parce que...
Il n'y a pas de frontières.
Non, il n'y a pas de frontières. Et puis, ce sont des personnes. Hein. Je connais des députés qui sont beaucoup à Paris, mais qui ne sont pas sur leur territoire. Et ça, à mon avis, c'est embêtant parce qu'ils loupent toute une partie de leur fonction pour laquelle ils ont été élus par les électeurs d'un territoire. Donc, ils doivent quelque chose à ces habitants-là. Et le principe, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe dans le territoire, c'est de pouvoir regarder ce qui s'y passe, de manière à pouvoir faire remonter des problèmes généraux, de les faire remonter au niveau national pour essayer d'améliorer la réglementation, d'améliorer la loi. Et puis, on a aussi tout ce travail, j'allais dire, presque de bureau d'aide sociale, plus, c'est qu'on a des gens aussi qui sont un peu désespérés, un peu abandonnés sur des territoires, qui viennent nous voir pour nous exposer les problèmes et on essaye de débrouiller des situations, on essaye d'améliorer les réponses qui leur sont apportées. Et là, on est vraiment en contact avec les services de l'État pour pouvoir améliorer ces situations-là.
Peut-être l'occasion de rappeler, vous faites une permanence parlementaire sur le territoire ?
Oui, alors moi j'ai une permanence, j'ai un lieu d'accueil qui est ouvert 5 jours par semaine puisque j'ai des assistants parlementaires hein, qui m'aident dans mon travail. J'en ai un à Paris et deux sur la circonscription, sachant que moi je peux recevoir les personnes quand je ne suis pas à Paris, bien évidemment. Je peux recevoir les personnes sur rendez-vous, je le fais parce que ça me paraît plus correct pour les personnes, elles n'ont pas à attendre et à faire la queue dans un hall d'accueil. Je fais des permanences à Villefontaine parce que c'est là où j'ai mes locaux de permanence, mais je viens aussi à Pont-de-Beauvoisin, à la Tour du Pin et à Bourgoin-Jallieu, là sur rendez-vous, quand ça aide les gens à être au plus près de chez eux. Alors, sachant que ces permanences-là, elles sont moins fréquentes que celles que je tiens à Villefontaine, où mes assistants peuvent également recevoir les personnes qui en ont besoin. Il m'est même aussi arrivé d'aller faire des permanences, enfin de recevoir des gens dans d'autres mairies, dans les communes sur mon territoire, voire même d'aller chez les personnes elles-mêmes lorsqu'elles ne peuvent pas se déplacer.
Alors, je vais revenir à ce que vous disiez au début. Vous faites donc partie de cette commission des affaires sociales. C'est ce que vous avez choisi. C'est parce que ça fait partie de vos compétences. Et après, une fois dans cette commission, qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel domaine ou tel autre ? Là, on voit que c'est le Premier ministre qui vous a confié une mission, mais vous pouvez vous emparer vous-même de sujets.
Ah oui, parce que, alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que je suis dans la commission des affaires sociales, mais je fais aussi partie d'une mission particulière qui fait du contrôle du financement de la sécurité sociale. Ça s'appelle la MEX. Bon, c'est un sigle, hein. C'est mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Dans ce cadre-là, tous les partis sont représentés. On est à peu près 10 ou on doit être 12 dans cette mission-là. Et on se donne nous-mêmes des missions. Moi, la dernière mission que j'ai portée moi-même dans le cadre de cette commission, c'était sur l'opportunité d'accroître l'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, on est dans une situation où de plus en plus les gens se font opérer en ambulatoire, c'est-à-dire vous êtes opéré le matin, vous ressortez le soir de l'hôpital. Mais bien souvent, on a besoin de soins particuliers, de soins un peu intensifs, pour lesquels il n'est toutefois pas obligatoire de rester à l'hôpital. Des gens veulent rentrer chez eux. Et là, on met autour d'eux tout un panel de professionnels qui peuvent leur donner les soins nécessaires, mais à leur domicile. Et donc, la France est un petit peu en retard par rapport à ce type de service. Et le but de ma mission, c'était de voir comment on pouvait l'améliorer.
Alors, ce type de mission, c'est vous qui les choisissez ?
Oui, on les choisit en concertation avec l'ensemble des députés qui sont dans cette mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. On a travaillé, par exemple, sur les transports hospitaliers, les transports sanitaires. On a travaillé sur la dette des hôpitaux publics. Là, on va travailler bientôt sur tout ce qui est l'open data, c'est-à-dire tous les échanges de données informatiques sur des dossiers de malades. Là, on est sur quelque chose de très particulier, il faut faire très attention, etc. Mais on pense qu'il y a des choses à trouver qui permettraient d'avoir des échanges d'informations un peu plus efficaces que ceux qui sont faits aujourd'hui.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais ce sera bientôt les prochaines élections législatives. C'est donc la fin de votre mandature. Est-ce que vous avez des temps forts, des actions fortes que vous retiendrez plus particulièrement ?
Dans ce que j'ai fait pour
dans ce travail de député, oui.
Des temps forts, bien évidemment, quand on est rapporteur d'une loi, c'est toujours un temps fort, c'est toujours un temps très particulier dans une vie législative, dans une vie de député. Mais autrement, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est la rencontre avec les gens. Ça, je crois que c'est ce qui m'aura le plus plus dans cette mission de député, c'est la rencontre et puis c'est l'impression, j'espère que ça n'a pas été qu'une impression, mais d'avoir pu rendre service à des gens, mais pas que des gens au titre individuel, mais aussi à des entreprises, aussi à des associations, parce que je crois que de pouvoir écouter les gens, de pouvoir s'intéresser à ce qu'ils sont, à ce qu'ils pensent, ça c'est extrêmement important, et le rôle de député permet de pouvoir faire progresser les choses autant qu'on peut.
Alors très bien, je vous propose de faire une toute petite pause musicale et de se retrouver un petit peu après et justement revenir un petit peu sur ces notions de territoire, de votre vision sur notre territoire, sur cette 10e circonscription, sur le Nord-Isère en général. Voilà, à tout de suite.
Nam follow mana gele ya ima, kia nyenye ni samfe, kanya nyenye duguma, kanya ni sani duguche namano ya alafile.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola. Joma aladon. Kamandila, kanumba yanteri, ni kera mafe katife, ni anyenye ni samfe, kanyenye ni duguma, kanyenye sani duguche na manoya alafile.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola. Joma aladon. Mana kedia la jamaye fie goya manin kelenye idu mana ke goya jamaye fie dia manin kelenye
la la
Johnny mbe kokola
oh la la
Johnny mbe kokola joma aladon ne miri monde be Johnny mfe a dunya su Seti jonye yande barusuoye.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola.
Ooh la la,
Johnny mbe kokola. Cola
Nous sommes bien sur Couleur FM 97.1 FM et nous sommes en compagnie dans notre émission Espace Public de Joëlle Huillier, députée de la 10e circonscription de l'Isère. Madame Huillier, merci encore de nous avoir rejoints à Couleur FM pour
c'est
cette
émission. C'est un plaisir.
Ce plaisir est partagé. Et ben nous découvrons un peu votre travail de députée. On a commencé par cette mission sur le baluchonnage qui vous a été confiée par le Premier ministre. Et puis nous découvrons un peu votre travail que vous nous faites partager pendant cette heure d'émission. Et vous nous disiez que vous êtes la députée d'un territoire, donc d'une circonscription. Ce territoire, vous y faites des permanences, vous rencontrez des gens, vous nous disiez la richesse de ces rencontres. Et alors j'ai envie de vous demander, quelle est votre sentiment, quelle est votre vision sur notre territoire, sur sa situation actuelle, son développement, potentiellement ses perspectives d'avenir?
Alors, je dois vous dire que ce Nord-Isère, hein, c'est un territoire qui m'est très très cher au cœur, c'est un territoire exceptionnel. C'est un territoire où on a la chance d'avoir une démographie, je ne veux pas dire galopante, mais en croissance. Et ça, c'est important d'avoir toujours ce renouvellement de population. Mais c'est aussi un territoire qui, économiquement, est meilleur que d'autres territoires. Je ne veux pas dire qu'il est épargné parce qu'on a aussi du chômage, on souffre aussi de certaines conditions, mais néanmoins, on est un peu mieux loti que beaucoup d'autres territoires. On a des entreprises exceptionnelles sur ce territoire. On a des filières sur les textiles techniques innovants. On a des filières sur ce qui concerne le bâtiment avec des matériaux innovants pour la construction. On a une filière logistique qui est reconnue en Europe entière. Hein. C'est la plus grosse, c'est le plus gros espace logistique de France. Et ce qui permet d'avoir de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Et puis, on a des centres de recherche, notamment, je pensais, au ciment. On a Lafarge d'un côté qui, en ce moment, connaît quelques difficultés quand même depuis qu'il s'est fusionné avec Holcim. Mais on a aussi Vika avec son centre de recherche. Et d'avoir de la recherche, ça veut dire qu'on a de l'innovation et ça veut dire qu'on a forcément de la croissance. Donc, un territoire vraiment exceptionnel.
Vous disiez que vous receviez beaucoup les gens. Qu'est-ce qui vous font remonter? Quelles sont leurs difficultés principales?
Alors, comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on a un territoire exceptionnel qu'on a un territoire exempt de chômage. Il y a aussi du chômage chez nous. Et souvent, les personnes que je rencontre, quand je rencontre des personnes en individuel, je m'entends bien, c'est souvent pour des questions d'emploi. Et la question d'emploi va entraîner toutes sortes de choses, va entraîner des problèmes de logement, va entraîner des problèmes aussi financiers, tout simplement, avec des personnes qui ont du mal à finir les fins de mois parce que les indemnités sont pas assez fortes ou parce qu'ils n'ont plus d'indemnités, qu'ils sont en fin de droit ou parce qu'ils sont malades et certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce et puis quelquefois simplement d'une écoute. Parce que bien souvent, c'est vrai que dans les administrations, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'écoute du tout, mais quelquefois, on traite un dossier, on ne traite pas un humain. Moi, au moins, la facilité que j'ai, c'est que je ne vois pas les dossiers, mais je vois les gens. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette possibilité d'écouter et cette possibilité de tenter de résoudre les choses. Je rencontre aussi des grands-parents qui n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis 6 mois parce que le papa ou la maman est parti avec dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation et c'est des gens qui sont désespérés. Donc on a aussi besoin de ça, ils ont aussi besoin qu'on leur donne des conseils pour essayer de cheminer pour un aboutissement favorable de leur situation.
Alors sur un autre plan, toujours le Nord-Isère, vous le disiez, beaucoup d'entreprises, beaucoup de réussites économiques, beaucoup de logistique. Alors s'il y a de la logistique, c'est parce que aussi on est un grand carrefour entre Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, Saint-Étienne. Le Nord-Isère est un carrefour. C'est un carrefour en évolution entre justement des métropoles en construction. Comment vous voyez son avenir entre urbain et rural, entre deux grandes métropoles?
Oui, alors on est vraiment placé entre deux métropoles puisqu'on est placé entre Lyon et Grenoble. La principale difficulté, si tant est que ce soit une difficulté, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé le mot exact, c'est qu'on est à côté de Lyon. On n'est pas à côté de Grenoble, c'est sûr, et que Lyon est beaucoup plus facile d'accès que Grenoble. Néanmoins, on se sent très isérois. Donc, on n'a pas envie que Lyon vienne nous grignoter nos territoires, vienne nous grignoter nos compétences. On a vraiment envie d'être bien isérois. Mais quelquefois, on a un peu l'impression que Grenoble nous a oubliés parce que les instances décisionnelles, le conseil départemental est à Grenoble, etc. Et que pendant longtemps, on a été oubliés. On l'est de moins en moins, il faut le dire, qu'avec les élus, notamment des majorités précédentes, le Nord-Isère a compté, avec les élus aussi actuels. C'est pareil.
J'en témoigne, mais nous avons reçu Jean-Pierre Barbier il y a quelques jours.
Ah ben vous voilà. Donc vous voyez, je ne fais pas une question partisane. Simplement une question où les chefs-lieux avaient une importance considérable et on oubliait un petit peu ce qui était du semi-urbain ou ce qui était de la ruralité. Et puis, sur ce Nord-Isère, on a eu chance, malchance, je ne sais pas, chacun pourra en juger, mais néanmoins, je pense que ça a été une chance d'avoir la création d'une ville nouvelle. ville nouvelle qui avait d'abord beaucoup de communes, ensuite un petit peu moins, et puis maintenant la ville nouvelle s'est terminée. On a eu à la place une communauté de communes, etc., qui est forte de ces, de toutes ces communes qui sont à l'intérieur. Mais cette ville nouvelle, elle a permis d'avoir pas mal d'argent qui venait de l'État pour pouvoir construire cette ville nouvelle, avec des commerces, avec des entreprises, avec des logements, etc. Et ça a donné une certaine force à ce territoire, un territoire qui a enfin été reconnu. Et je crois que ça, malgré les défauts maintenant qu'on peut voir à la ville nouvelle, avec une ville où on a que de l'industrie, une autre ville où on a que du logement et du logement social, et une autre ville où on a que des commerces, on voit bien que ça, c'était pas très bon. Il aurait fallu qu'on puisse former une seule commune à la fin, parce qu'il y a des communes qui ont beaucoup d'argent, puis d'autres qui n'en ont pas du tout. Voilà, selon si elles ont des entreprises, des commerces, ou si elles ont que les habitants. Mais ceci étant, ça a donné quand même un certain souffle à ce Nord-Isère qui maintenant est reconnu pour ce qu'il est. Et si on a le plus gros pôle logistique de France, c'est parce qu'il y a eu la ville nouvelle. Autrement, on n'aurait pas tout ça. Et si on a été connu et si des entreprises sont venues s'installer, comme les ciments par exemple, c'est pas pour rien non plus. Et si on a des industries de construction innovante avec des bâtiments assez exceptionnels au niveau de la consommation énergétique, etc., c'est parce que la ville nouvelle a été là. Alors maintenant que ce soit un peu mal foutu dans un certain nombre de quartiers, etc., c'est sûrement vrai. Il y a des choses à revoir au niveau urbanistique et au niveau de la politique de la ville. Néanmoins, je pense que ça a été une chance qui a permis à ce territoire de se développer.
Bon, en tout cas, on entend votre amour pour ce territoire et pour cette ville nouvelle. Alors, vous avez dit tout au début qu'on n'aimait pas trop dans le Nord-Isère, et c'est bien normal parce qu'on a Isérois se faire grignoter par Lyon, par le Grand Lyon, par la métropole lyonnaise. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de deux Rhônes de métropole qui relierait Bourgoin-Jallieu à Saint-Étienne en passant par Lyon?
Oui, alors là, on est dans une métropolisation. Moi, je pense que il faut quand même savoir avoir des échanges et les construire avec les autres métropoles, ça c'est sûr. On a besoin de Saint-Étienne, on a besoin de Lyon, on a besoin aussi de Chambéry, on a besoin de Grenoble, et je pense qu'il y a des grands territoires à former comme ça. Mais il faut qu'on garde quand même une certaine individualité, on n'est pas tous les mêmes. C'est comme quand on a construit la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais même quand on a construit que Rhône-Alpes, on se demandait bien ce que les Ardéchois avaient à voir avec les Hauts-Savoyards. Néanmoins, la région Rhône-Alpes, elle a su se positionner, elle a su travailler avec tous les autres, sans pour autant que les Ardéchois deviennent aux Savoyards. Voilà, ils ont chacun leur particularité, on les a gardés, et ça c'est essentiel. Et je pense que dans le cadre d'une grande eurométropole, je ne sais pas si administrativement c'est valable. Néanmoins, je crois vraiment aux échanges qu'il peut y avoir entre tous ces gens-là au niveau universitaire, parce que quelquefois, on oublie un petit peu les universités, mais au niveau des transports, au niveau économique, je crois qu'on a des choses à faire sans pour autant avoir une seule grande eurométropole et que les communes elles-mêmes disparaissent. Ah, ça serait dommage.
Le simple exemple de l'université que vous citez est tout à fait possible bien avant l'eurométropole, puisque l'université de Lyon, par exemple, a fusionné avec Saint-Étienne.
Et voilà.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
C'était Barbara avec Göttingen sur Couleur FM dans le magazine Espace Public. Nous allons tout de suite retrouver l'entretien avec Joël Huillier. Juste le temps de vous dire que cet entretien a été réalisé le 1er décembre et qu'alors que nous l'avons enregistré, nous ne savions pas encore que quelques heures plus tard, François Hollande allait annoncer sa non-candidature. Les prises de position de Joël Huillier que vous allez entendre sont donc antérieures à cette nouvelle.
Voilà, alors il nous reste un petit peu de temps devant nous et j'aimerais beaucoup qu'on parle de choses plus politiques, plus politiciennes peut-être, parce que l'année est chargée. On a vu des primaires à droite qui nous ont réservé de grandes surprises. Et puis de votre côté, au Parti Socialiste, voilà, les candidats s'arment pour les primaires qui vont se dérouler en janvier. Vous situez plutôt dans quelle tendance, plutôt effectivement dans un légitimisme vers François Hollande?
Total.
Plutôt
total. Moi, je suis ce qu'on appelle dans le courant hollandais. Moi, j'estime que, bon, c'est vrai, on parle d'un Hollande bashing qui a eu lieu. Je pense que c'est vrai, où on a plus tiré sur la personne que tiré sur le programme et sur le bilan qui a été réalisé. Mais moi, je suis quelqu'un qui, quand il prend un engagement, le tient. Et j'ai pris un engagement auprès de François Hollande, c'est à ce titre-là que j'ai été élue. Donc moi, je tiens mes engagements jusqu'à ce que ces engagements cessent. Mais aujourd'hui, je suis toujours hollandaise. Si M. Hollande se présente, je voterai M. Hollande. Si quelqu'un d'autre sort, s'il y a des primaires, si quelqu'un d'autre sort de la primaire, à ce moment-là, je voterai pour la personne qui sortira des primaires. Je suis extrêmement légitimiste et je crois que de trahir ou de passer par différents contours, etc., c'est pas bon pour notre société.
Ce n'est pas un bon exemple.
Ah non.
C'est souvent cet exemple, effectivement, qui peut-être dérouter les électeurs. Et alors, je précise, vous êtes hollandaise, mais vous êtes bien toujours de Villefontaine. Qu'on ne s'y trompe pas. Et alors, par rapport au Hollande bashing, c'est vrai qu'on dit que les médias font du Hollande bashing. En tout cas, c'est pas sur Couleur FM, parce que sur Espace Public, ça fait au moins deux fois, avec votre collègue André Borne de Bourgogne-Jallieu, que nous recevons des Hollandais, donc du Nord-Isère. Peut-être une réaction sur l'élection aux primaires de François Fillon. C'est une surprise, vous disiez?
Ah ben, c'était une surprise puisqu'on nous avait annoncé qu'il était plutôt troisième parmi les candidats. C'est une surprise, mais enfin, ce que je dois dire, c'est que les primaires ont été extrêmement bien menées par les partis de droite. Donc moi, je peux que les en féliciter. Je trouve que c'est une affaire, comme je le disais, bien menée. Il y a eu beaucoup d'électeurs. Certains ont dit qu'il y avait des électeurs de gauche qui étaient venus voter à droite. Pour ma part, je le regretterais parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils ont signé une charte, ces électeurs-là. S'ils sont de gauche, ils ont signé une charte disant qu'ils se reconnaissaient dans les valeurs de la droite. Je suis un petit peu étonnée. Je dis pas que les valeurs de la droite sont mauvaises. Je dis que c'est curieux que quelqu'un qui s'affirme de gauche puisse signer un papier de cette nature. Ceci étant, une élection bien menée, une surprise effectivement avec Monsieur Fillon qui est sorti, qui a été vainqueur, mais avec un pourcentage extraordinaire. Je dis que ça correspond sans doute aux besoins des gens, un besoin de fermeté sans doute. Mais par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je crains énormément le programme de Monsieur Fillon. Je me battrai contre, je pourrais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce programme, parce que c'est un programme qui me fait très très peur dans sa dureté et dans ses positions un peu extrêmes.
Alors dans quel domaine économique ?
Alors, ce qui me gêne énormément, c'est déjà l'augmentation du temps de travail, où là, il n'y aura plus d'heures supplémentaires, je signale, puisqu'il ne parle que de la durée maximale du temps de travail à 48 heures. Ça veut dire qu'entre 35 et 48 heures, on pourra travailler plus de 35 heures sans être payé plus.
Oui, déjà, rappelons que le droit européen est à 48 heures par semaine.
Oui, le droit européen, exactement. Mais en France, on a un autre droit du travail, et celui-là, je pensais qu'on pouvait quand même le maintenir, surtout quand on a du chômage. Je ne vois pas à quoi ça sert de travailler plus si on laisse les autres sur le carreau. Ça, c'est la première chose. L'augmentation du départ à la retraite, c'est ce qui se passe dans d'autres pays, c'est vrai. 65 ans dans un premier temps, 67 ans dans un second temps. Aujourd'hui, notre régime de retraite est à l'équilibre, voire en excédent. À quoi ça sert de faire travailler des personnes de plus de 62 ans plus longtemps, alors qu'on a aussi des jeunes qui sont au chômage ? Là, je ne comprends pas du tout. Et puis, il y a aussi la problématique des 500 000 fonctionnaires qu'on va détruire, qu'on va supprimer. Mais 500 000 fonctionnaires, est-ce qu'on se représente ce que c'est ? Moi, les fonctionnaires sont pas là pour rien faire. Les fonctionnaires sont là pour assurer une mission de service public. Si cette mission de service public n'est plus assurée par des fonctionnaires, il faudra bien qu'elle soit assurée par d'autres personnes. Ça veut dire qu'on paiera peut-être moins d'impôts, ça coûtera peut-être moins cher à l'État, mais tous les individus devront payer plus cher leurs factures parce qu'il faudra bien que quelqu'un fasse le travail. Donc on ne me dise pas que les 500 000 fonctionnaires qu'on veut supprimer, c'était des feignants et qu'ils ne faisaient rien. Je trouve ça absolument inadmissible.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est à l'heure des effets d'annonce destinés à convaincre un électorat de droite ?
Oui, si on voit ce qu'a fait M. Trump jusqu'à présent, l'effet d'annonce, effectivement, pendant sa campagne, était absolument épouvantable. Et puis, on voit qu'il met un peu plus d'eau dans son vin que ce qu'on pensait au départ. Alors, est-ce que c'est la même chose pour M. Fillon ? Est-ce qu'il veut récupérer un électorat du Front National en prenant des positions aussi fermes ? Mais maintenant, le Front National réplique par des mesures où on a l'impression qu'il est à l'extrême gauche. Allez, comment les électeurs vont-ils comprendre quelque chose ? On ne sait plus où on en est. Au moins, nous, ce qu'on propose au Parti Socialiste, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose qui est cohérent et on verra qui est primaire ou pas primaire, mais on verra que dans la campagne, on est en pleine cohérence avec ce que nous avons fait jusqu'à présent. On n'a pas pu tout faire, c'est vrai, mais tout ce qu'on a fait, ça n'a jamais enlevé des droits à des personnes.
Voilà qui est dit. François Fillon, ça permet de faire une transition avec notre situation locale. On a parlé des législatives. Vous allez être de nouveau candidate aux législatives ?
Peut-être.
Peut-être.
Je suis candidate au sein de mon parti politique. Maintenant, mon parti politique va décider, ce sont les militants qui vont voter, pour savoir s'ils retiennent ma candidature.
Il y a d'autres candidats à la candidature face à vous ?
Non. Pas au sein du Parti Socialiste. Je suis la seule candidate.
À gauche néanmoins ?
Ah à gauche, il y en aura d'autres, oui. Oui, je pense. Enfin, je pense qu'il y en aura d'autres, oui. Il y a M. Jean-Jacques Faure, là, qui...
Voilà, c'est pour comprendre les précautions que vous prenez, oui.
Oui, oui. Monsieur Jean-Jacques Faure, qui s'est déclaré candidat, il voulait l'être au sein du Parti Socialiste, mais bon, il s'est mis en congé du Parti Socialiste parce que c'était pas possible pour lui d'être candidat. Va-t-il continuer à vouloir être candidat ? Moi, je n'en sais rien. Ça lui appartient. Hein. Je ne condamne pas la démocratie. Donc, s'il a envie d'être candidat, il l'est. Puis après, on a tous nos partenaires qui sont à gauche. Pour l'instant, je ne connais pas encore de candidat. Mais bon, ils ont le temps. Hein.
Très bien. Alors, si je disais que François Fillon était une excellente transition vers les législatives, c'est parce que vous allez reproduire un duel qu'on a déjà connu lors de votre élection avec Vincent Chriqui. Vincent Chriqui qui est, on le sait, un proche de François Fillon.
Tout à fait. Tout à fait, mais bon, on a l'habitude de se voir, on refera des débats ensemble, et puis voilà, mais chacun avec ses positions, ses idées, etc. Je sais que dernièrement, il a dit que moi, j'étais une femme de terrain, lui, un homme de dossier, mais je vais un tout petit peu refuser ça, qu'il soit un homme de dossier, c'est sûr, et pas un homme de terrain, c'est vrai, puisqu'il le dit lui-même, mais moi, je suis une femme de terrain et une femme de dossier.
Oh bah sinon, c'était peut-être pour marquer votre complémentarité.
Tout à fait. Mais bon, il y a complémentarité et complémentarité. Tout dépend quel pourcentage on met sur l'un ou sur l'autre.
Donc, complémentaire ou pas, il faudra bien que les électeurs choisissent tout de même entre vous à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que Vincent Chriqui peut profiter un peu de cette vague Fillon? Et puis, il est maire de Bourgoin-Jallieu, il commence à être un petit peu plus connu.
Mais d'être connu, ça ne veut pas forcément dire apprécié. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas apprécié. Mais d'être connu, ça ne veut rien dire. Hein. En revanche, qu'il profite d'une vague Fillon, il faut déjà que Fillon soit élu président de la République. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on le dit. Va-t-il profiter d'une vague Fillon? Peut-être, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Moi, regardez 2012. Quel a été le résultat des élections présidentielles en 2012 sur la 10e circonscription? Sarkozy était à 52%, Hollande à 48%. Et pourquoi j'ai gagné? J'aurais pas dû gagner. Eh ben voilà. Eh oui. Donc vous voyez, on peut pas savoir d'avance.
Il n'y a pas de logique.
Jamais, jamais. Il n'y a pas de logique. Alors, il y a des grandes tendances, oui, je suis d'accord. Mais quand on prend territoire par territoire, il n'y a pas de logique. Moi, tout ce que j'espère, et pour les électeurs, je vais vous le dire honnêtement, je suis pas quelqu'un de prétentieux. J'espère que les gens voteront pour moi. Parce que moi, je suis sur le terrain et que moi, je suis sûre de pouvoir les aider. C'est pas à Paris qu'on aide les gens. C'est ici qu'on aide les gens. Donc, je leur laisserai le choix.
Bien. Tout ceci, de toute façon, est pour l'instant de la politique fiction et pure prospective. Nous allons petit à petit nous rapprocher de ces législatives et je suis sûr que qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici là, une fois ou deux. Et en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps, de nous expliquer votre travail, de nous expliquer votre fonction de député, en quoi ça consiste cette démocratie française qui est et qui reste très 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 importante.
Je vous remercie.
Espace public, c'est terminé pour cette fois-ci. Merci encore à Joël Huillier, merci à Laurent, à William, à Estelle et à Mathieu qui m'ont soutenu pendant cet enregistrement d'émission. Et le temps de vous dire encore que nous avons donc écouté d'un petit peu de musique entre-temps pendant notre entretien avec Joël Huillier. Nous avons écouté Divine Comedy avec Napoléon Complex, Rokia Traoré avec Lala et puis Barbara avec Göttingen. Et nous allons nous quitter sur les notes d'Ibrahim Malouf comme de coutume. À très bientôt.